Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Marc Bisset qui est aux commandes techniques de cette émission. Et à la une, vous l'avez entendu quand on en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, c'est l'affaire Agnès Leroux. C'est un feuilleton judiciaire exceptionnel, quasiment inédit en France. Il y a 37 ans, cette jeune et belle et riche héritière d'un casino de la Côte d'Azur disparaissait à une date d'ailleurs qu'on n'a jamais pu déterminer exactement, aux alentours de la Toussaint 1977. On va revenir sur ces circonstances dans quelques instants. Et puis l'ami, amant Maurice Agnolet, Jean-Maurice Agnolet, est considéré par la famille d'Agnès Leroux très rapidement, et on vous rappellera dans quelles circonstances également, comme l'assassin de cette jeune femme. On n'a jamais retrouvé la voiture, on n'a jamais retrouvé donc de cadavre non plus, on n'a pas de preuves matérielles de ce qui s'est passé, et nous en sommes maintenant au troisième procès pour un homme qui a été successivement considéré comme non coupable en 2006, coupable en 2007 avec à la clé 20 ans de prison, libéré depuis 2013 en attente de son troisième procès. C'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors aujourd'hui c'est cet aspect-là qu'on va essayer d'éclairer avec mon invité maître François Saint-Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Lyon, vous êtes l'avocat de Maurice Agnolet. Vous avez suivi d'ailleurs les deux précédents procès, enfin, vous étiez là, vous étiez un des acteurs de ces procès, vous avez vécu ces deux émotions contradictoire. Un mot tout de suite, simplement, pour ce caractère exceptionnel, voire inédit de l'affaire.
C'est une situation sans précédent. Hein. 37 ans de procédure, 3 procès de cour d'assises, entre la condamnation et ce procès qui va s'ouvrir, une décision majeure de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France pour procès inéquitable. C'est une décision qui a permis la tenue de ce troisième procès, la remise en liberté de Maurice Agnolet après 5 ans, mais c'est aussi une décision qui a provoqué une profonde remise en cause du système judiciaire, de la justice criminelle en France, et c'est pourquoi ce procès va s'ouvrir dans de nouvelles conditions.
Alors, on verra ensemble au cours de cette émission avec vous comment vous abordez, j'allais dire techniquement et pratiquement, ce procès. On en parlera également avec de l'enquête, en tout cas, et de ce qu'il y a dans le dossier de l'instruction avec mon confrère Michel Henry, qui est journaliste à Libération, qui est l'auteur d'un livre, Agnolet, l'homme que l'on n'aimait pas, qui est paru aux éditions Odile Jacob. Et puis, et c'est tout naturel, bien sûr, de le faire. On donnera également la parole à Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès Leroux, qui partage avec l'ensemble de sa famille la conviction que Maurice Agnolet est coupable d'assassinat. Ils sont partie civile dans ce procès. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut revenir rapidement, mais en prenant quand même le temps de donner un certain nombre de détails sur les circonstances dans lesquelles cette affaire a éclaté. Nous sommes en 1976. Le patron du casino Roule à Nice est un certain Jean-Dominique Fratoni. Et cet homme veut s'emparer de son concurrent direct, le Palais de la Méditerranée, un autre casino dirigé par Madame Renée Leroux, veuve d'un richissime homme d'affaires, qui rencontre à l'époque de nombreuses difficultés, entre autres à la suite d'une partie de 30 et 40 qui lui a coûté au casino en un seul soir plus de 4 millions de francs. Et Renée Leroux est persuadée que cette partie a été truquée et que son concurrent direct, qui lui a déjà proposé de racheter les parts de son casino, a voulu ainsi la mettre à genoux. Donc, elle refuse de vendre, mais les difficultés s'accumulent et le Palais de la Méditerranée est au bord de la faillite. C'est le début de ce qu'on appellera la guerre des casinos. Pour arriver à ses fins, Fratoni décide d'utiliser un avocat niçois, proche de la famille Leroux, maître Maurice Agnolet, qu'il charge de séduire la fille de René, Agnès, une jolie jeune femme brune, qui a de très mauvais rapports avec sa famille. Agnès Leroux détient un certain nombre de parts qui pourrait permettre à Doumé, comme on l'appelle là-bas, de mettre la main sur l'établissement en faisant pencher la majorité du conseil d'administration par un vote de cette jeune femme contre sa mère. Et c'est ce qui se passe, effectivement, l'année suivante, le 30 juin 1977. La riche héritière a vendu ses parts à Jean-Dominique Fratoni pour un montant de 3 millions de francs. Celui-ci verse immédiatement 2 des 3 millions en liquide que la jeune femme dépose en Suisse sur un compte joint à son nom et à celui de son amant Maurice Agnolet. Le nouveau propriétaire des deux plus importants casinos niçois doit régler le solde lorsque la vente aura été officialisée. Mais aux alentours du 30 octobre 1977, la date exacte, comme je le disais tout à l'heure, n'a jamais pu être déterminée, Agnès Leroux disparaît en pleine vacances de la Toussaint, à bord de sa Range Rover blanche, que l'on ne retrouvera jamais. L'affaire Leroux vient de commencer. L'enquête sur la disparition d'Agnès Leroux commence très mal. Pourquoi ? Eh bien, parce que la mère d'Agnès ne saisira la justice que tardivement, quelques mois plus tard, en fait au début de l'année 1978. La jeune femme recherchée apparaît tout d'abord aux enquêteurs comme un personnage fantasque, superficiel, accumulant les voyages, les fêtes, les amants. C'est quelqu'un qui revendique aussi farouchement son indépendance et qui a l'habitude de disparaître pendant des semaines sans donner de nouvelles à ses proches et en particulier à son frère ou à sa mère avec qui elle a à l'époque de mauvais rapports. À l'origine de ce différend familial, la décision de René Leroux qui refuse catégoriquement de donner à sa fille Agnès la part de l'héritage paternel qui lui revient, part de l'héritage qui reste ainsi en indivision entre tous les membres de la famille. D'autres témoins, interrogés par les enquêteurs, vont au contraire dresser le portrait d'une jeune femme blessée par une vie affective chaotique, une jeune femme qui n'est pas heureuse. Côté vie sentimentale, celui qui est devenu son amant, son compagnon, l'avocat Jean-Maurice Agnolet, est infidèle, elle le sait. Il semble être plus attiré par sa fortune que par un amour sincère, c'est du moins ce qu'elle pense. Agnès Leroux a d'ailleurs fait plusieurs tentatives de suicide dans les semaines qui ont précédé sa disparition définitive. Les enquêteurs, saisis de la disparition d'Agnès Leroux, ne savent donc pas quelle est l'hypothèse à privilégier. Un suicide réussi et planifié par Agnès pour qu'on ne la retrouve pas ? Un suicide assisté par un proche qui ne veut pas être mis en cause ? Ou alors un assassinat ? Un crime parfait ? On n'a retrouvé en effet ni son corps, ni sa voiture de marque Range Rover, un engin tout-terrain encore rare et hors de prix pour le commun des mortels à cette époque, une voiture qui ne passait pas inaperçue et qui s'est pourtant volatilisée avec sa propriétaire. En septembre 1978, un an presque jour pour jour après la disparition d'Agnès Leroux, Maurice Agnolet transfère l'argent du compte commun suisse sur un compte à son nom et il signe également dans la foulée une procuration pour sa nouvelle compagne, Françoise Losseur. Comme s'il était persuadé, penseront certains, qu'Agnès ne réapparaîtrait jamais pour récupérer son argent. L'avocat est mis en garde à vue, mais il est relâché après le témoignage de cette femme, Françoise, qui affirme qu'il était bien avec elle dans un hôtel de Genève le jour de la disparition supposée d'Agnès Leroux. La suite, eh bien, la suite, tout le monde s'en souvient, c'est ce feuilleton judiciaire qui continue encore aujourd'hui. Août 1983, Maurice Agnolet est inculpé d'homicide volontaire et d'abus de confiance. Il passe 6 mois en détention préventive jusqu'en février 84. Novembre 1986, condamnation à 30 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, pour abus de confiance et complicité d'achat de vote lors de la vente dont on parlait tout à l'heure. Maurice Agnolet est d'ailleurs radié du barreau à cette occasion. Juin 1999, coup de théâtre, Françoise Losseur revient sur son témoignage de 1978. Elle affirme cette fois que son ex-amant n'était pas à Genève avec elle le week-end de la Toussaint 77. Elle a fait, dit-elle, un faux témoignage à sa demande et parce que, selon son intime conviction, elle était certaine qu'il était innocent. Décembre 2000, le dossier est réouvert à la suite de ce témoignage capital. 26 octobre 2005, Maurice Agnolet est renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Il est finalement acquitté faute de preuves en décembre 2006, non-lieu. Mais le parquet fait appel de la décision de la cour d'assises. Et le dernier rebondissement a lieu en octobre 2007. C'est un coup de tonnerre. Maurice Agnolet, condamné en appel à 20 ans de réclusion pour ce crime sans cadavre qui remonte presque jour pour jour alors à 3 décennies. Aucun fait nouveau, pas de preuves formelles, mis à part le témoignage d'une ancienne maîtresse qui avoue avoir menti en 78 en affirmant qu'il était avec elle. Dans cette affaire, le doute n'a pas bénéficié à l'accusé. Il a été condamné sur un faisceau d'indices certes troublant, mais sans preuve formelle. Alors a-t-il été condamné pour sa réputation sulfureuse, pour ses nombreuses contradictions, pour son cynisme affiché? Son pourvoi en cassation sera rejeté, mais la Cour européenne des droits de l'homme en a décidé ainsi. Il y aura un troisième procès. On retrouve Maître François Saint-Pierre dans un instant pour parler cette fois-ci du contenu de l'instruction, c'est-à-dire le dossier sur lequel Jean-Maurice Agnolet a été acquitté une fois et condamné l'autre fois.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Le troisième procès de Maurice Agnolet commencera lundi prochain devant la cour d'assises de Rennes, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Il sera défendu par François Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon, qui est un petit peu son avocat, on va dire, historique. On parle du dossier et du caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles ce troisième procès... D'ailleurs, je ne voulais pas poser la question, François Saint-Pierre, tout à l'heure. Est-ce que c'est un procès de la dernière chance pour Maurice Agnolet? Est-ce que ça veut dire que la décision qui sera prise par la cour d'assises sera définitive?
J'espère bien que ce sera le dernier procès et j'espère bien que ce sera un verdict d'acquittement.
D'accord.
Clairement.
S'il ne l'était pas, est-ce qu'il y a encore des voies de recours?
Nous irions en cassation. Mais ça me semble très improbable parce qu'aujourd'hui, donc, les cours d'assises doivent motiver leur verdict de condamnation par des éléments de preuve. Or, il n'y a aucune preuve.
Alors, revenons, tout à l'heure, on verra comment vous abordez ce procès qui s'ouvre lundi prochain. On en parlera également avec Michel Henry, donc le journaliste de Libération qui connaît très très bien ce dossier. On entendra également le point de vue de Jean-Charles Leroux, qu'on connaît, mais il faut lui donner la parole, parce que lui viendra avec la partie civile à ce procès, et avec l'intime conviction que Maurice Agnolet est coupable. Je reviens avec vous sur le contenu de ce dossier. Comment on arrive à lui et sur quel... Parce qu'il y a eu énorme... C'est extrêmement complexe comme affaire. Par exemple, je prends un exemple. Agnès Leroux a laissé un message extrêmement troublant qui peut être lu comme un message d'adieu de quelqu'un qui va se suicider. Mais il y a d'autres éléments. Il y a l'argent sur le compte suisse. Enfin, je vais vous laisser mettre ces éléments dans l'ordre pour que vous nous disiez pourquoi vous les avez systématiquement contestés depuis le début.
Bon, je vais résumer la situation pour que tout le monde comprenne. Effectivement, ça sera l'objet du procès de Rennes. Mais lorsqu'Agnès Leroux disparaît, nous sommes à l'automne 1977, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une jeune femme qui voyage. Bon. C'est avec le temps qui passe que sa famille s'inquiète, et c'est début 1978 que sa mère va déposer une plainte pour disparition, d'ailleurs.
Il
expliquait. Les policiers de Nice vont enquêter. Et rapidement, dans l'entourage d'Agnès Leroux, ils vont s'apercevoir qu'elle a un avocat, qui est aussi son amant, qui est Maurice Agnolet. Et l'interrogeant, ils se rendront compte que Maurice Agnolet ne dit pas tout. Et ils le confondront assez rapidement.
Voilà, ils vont découvrir toute l'affaire qui tourne autour du casino, de l'achat des parts, etc.
Et c'est ici qu'il faut bien distinguer deux sujets qui n'ont que peu à voir ensemble. C'est cette question de vente d'actions à Fratoni que vous évoquiez tout à l'heure.
Pour laquelle il a été condamné par la suite.
Exactement, et notamment radié de l'ordre des avocats. Et on peut comprendre que Maurice Agnolet, qui est questionné par la police sur son implication dans cette opération financière assez louche, veuille dissimuler son rôle. Mais du coup, comme il apparaît comme dissimulateur, les policiers vont le suspecter du pire, c'est-à-dire du crime. D'accord. Mais c'est un tout autre sujet.
Donc, en fait, vous dites, c'est un coupable idéal, quoi, à l'époque, parce qu'il n'a pas le profil de l'innocent, quoi.
Le problème, c'est que sur le plan de l'enquête criminelle, quel est le bilan? Mais il est égal à zéro, le bilan. Parce qu'au bout de plusieurs années d'instruction judiciaire, judiciaire. Il n'a pu être répondu à aucune des questions cardinales de toute affaire criminelle. Est-ce que l'on est sûr que la victime supposée est décédée?
Ouais, non. Mais quand les policiers s'interrogent que faisait Maurice Agnellet, que l'on soupçonne dans cette période effectivement de plusieurs jours autour de la Toussaint 1977, lui dit j'étais à Genève avec une amie, qui le confirme et puis qui va plus tard se rétracter.
Oui, mais moi je vais vous dire, il y a un problème de méthode d'enquête dans cette histoire, c'est qu'on s'intéresse à l'agenda de Maurice Agnellet, on s'intéresse à ses mensonges, on s'intéresse à ses mœurs, etc., etc. On ne pose pas les questions de fond. Pour qu'il y ait crime, encore faut-il que l'on constate un crime. C'est-à-dire qu'une personne soit décédée, que les causes de la mort soient suspectes, que l'on puisse localiser ce crime, le dater, que l'on puisse savoir si c'est un coup de poignard, un empoisonnement, un coup de feu, etc.
D'accord, ça, on ne peut pas répondre à ces questions.
Et nous n'avons rien.
Alors, il y a également, ça c'est votre point de vue, il y a également un certain nombre d'annotations, par exemple, qui ont été, retrouvées par les enquêteurs dans des livres anciens de la bibliothèque de Maurice Agnellet. Et c'est vrai que, quand on lit ces annotations,
en cours d'assises, regardez, il y a un livre de la Pléiade de Rimbaud. Sur lequel il a inscrit le bateau ivre. Et c'est aux alentours de l'une des tentatives de suicide d'Agnès Leroux. On dit, ah voilà, il a profité de son déséquilibre. Mais pas du tout. L'enquête, pour le coup, a démontré quelque chose ici, c'est que le jour même, à 13h, il déjeunait à Beaulieu avec Françoise Losseur dans le restaurant qui s'appelle le bateau ivre. Donc il y a chez Maurice Agnellet en fait un côté très très pragmatique. Et quand il va manger au bateau ivre, il écrit c'est le bateau ivre. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin dans cette histoire-là.
Quand il écrit Libération, à une date
C'est sur Hemingway, je crois. Et puis sur Montaigne, il écrit Amitié. C'est un très grand poète, Maurice. Et donc il a comme ça des métaphores qui sont assez...
Donc pour vous, on comprend bien, il n'y a que des hypothèses, il y a surtout des hypothèses. Est-ce qu'à votre avis, mais je vous demandais une réponse rapide, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, est-ce qu'à votre avis, il y a des pistes qui n'ont pas été suivies? Parce qu'il y a quand même une jeune femme qui a disparu, et il est certain que n'ayant pas donné de ses nouvelles, il lui est arrivé quelque chose de grave.
Bon, il est tout à fait possible, effectivement, qu'Agnès Leroux, hélas, soit décédée à cette époque. Il y avait une piste extrêmement importante qui n'a pas été suffisamment creusée, c'est celle d'un crime mafieux commis par le clan Fratoni Zampa en représailles, parce qu'Agnès Leroux leur avait vendu des parts de casino qu'elle avait déjà vendues à sa mère, ce qui rendait l'opération impossible. Mais il y a aussi une autre piste. Cette jeune femme, vous l'avez dit tout à l'heure, était en grand désarroi parce qu'en guerre avec sa famille, il y a eu 2 tentatives de suicide. Il n'est absolument pas impossible qu'elle ait mis fin à ses jours ailleurs. Elle a quitté Nice, c'est sûr. Elle est partie et on ne sait plus rien.
Alors, on va faire une pause dans cette émission. On vous retrouve tout de suite après. On retrouvera également Michel Henry, le journaliste de Libération. Et là, on reviendra sur cet événement particulier, quand même, à un an d'intervalle. Un verdict d'acquittement, un verdict de culpabilité. Et au fond, toujours le même dossier. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Avec maître François Saint-Pierre, dans un instant, le journaliste de Libération Michel Henry, tout à l'heure Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès Leroux. On revient sur cette affaire Leroux et surtout sur ce très long feuilleton judiciaire qui dure maintenant depuis 37 ans. On a rappelé tout à l'heure cette chronologie qui débouche sur un renvoi en 2005, un renvoi devant les assises, et le procès a lieu en novembre 2006. Le 20 décembre 2006, la cour d'assises des Alpes-Maritimes rend son verdict. Jean-Maurice Agnellet est acquitté de l'assassinat d'Agnès Leroux sur RTL. Écoutez le récit qu'en faisait à l'époque Pierre Thébault.
Le verdict vient de tomber, donc au bout de 5 heures de délibéré. Un délibéré donc qui vient d'être prononcé, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a donc décidé d'acquitter purement et simplement Jean-Maurice Agnellet, qui n'a pas été jugé ni reconnu coupable ni de l'assassinat d'Agnès Leroux, ni de complicité dans son assassinat. Une décision qui est tombée dans un traitement évidemment médusé, parce qu'on ne s'y attendait pas. Le procès a duré un mois, au terme d'un mois de procès, donc Jean-Maurice Agnellet a été acquitté. Évidemment, Jean-Maurice Agnellet est tombé dans les bras en larmes de ses avocats qui eux-mêmes étaient également en larmes. Juste Maître Saint-Pierre, qui était l'un de ses défenseurs, il y avait deux défenseurs avec Maître Versini, a dit, mais écoutez, c'est clair, en 30 ans, puisque cette affaire remonte à 30 ans, Jean-Maurice Fagnolet a été accusé d'un assassinat qu'il n'a pas commis. Et moi, je mets ce meurtre, cet assassinat d'Agnès Leroux sur le compte de la mafia niçoise de ces années-là. Jean-Maurice Fagnolet est donc acquitté par la Cour d'assises des Alpes-Maritimes.
Alors évidemment, je vous regardais, Maître François Saint-Pierre, écoutez, ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine.
Au verdict, c'était une émotion considérable à l'issue d'un procès d'un mois, avec une tension dramatique continue. Oui. C'était Georges Kiegemann qui était l'avocat des Leroux, et je dois dire que jusqu'au bout, le suspense était grand. Mais ce verdict est tombé de manière claire. La cour d'assises a reconnu qu'Agnès Leroux avait été assassinée, mais que ça n'était pas Maurice Agnolet. D'où, à l'issue de ces débats, une conviction, mais généralisée, que la mafia avait commis ce crime.
Alors, sauf pour le parquet, puisque le parquet fait appel de cette décision. Jean-Maurice Agnolet est rejugé l'année suivante, toujours pour l'assassinat d'Agnès Leroux. Ça se passe donc en 2007 devant la cour d'appel des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Et le 11 octobre, il est condamné par cette cour à 20 ans de prison. Écoutons le compte-rendu de Pierre Thébault, qui a suivi ce procès comme il avait suivi le précédent.
20 ans de réclusion au bout d'une affaire vieille de 30 ans, au bout de deux non-lieux, dont le dernier en 1985, au bout d'un acquittement à Nice en décembre dernier en première instance, et puis à Aix tout à l'heure, 20 ans ferme, après deux heures de délibéré, c'est-à-dire une décision prise à la vitesse de l'éclair, pour ainsi dire. 20 ans de réclusion, aujourd'hui la famille Leroux a écouté la sentence complètement effondrée, en larmes, peut enfin mettre un nom sur l'assassin d'Agnès, douloureux et soulagement pour René Leroux, la maman, dont la ténacité a fini par payer au bout de 30 ans de combat. Il était temps, a-t-elle dit tout à l'heure d'une toute petite voix dans un souffle. Aujourd'hui, j'ai 86 ans et je suis fatigué. Agnolet, lui, a reçu la condamnation comme un coup de poing, KO debout, statufié, livide. Il a semblé ne pas très bien comprendre ce qui lui arrivait dans le box des accusés, où il avait été placé au moment de l'énoncé du verdict. Il a cherché comme perdu le regard de ses deux fils. Puis deux policiers se sont approchés de lui, l'ont pris par le bras, lui ont passé les menottes. Fin du film. Défait, lui aussi, son avocat, Maître Saint-Pierre, a dit dans la foulée qu'il allait évidemment demander la libération de son client, puis se pourvoir en cassation avant de se retourner vers la Cour européenne des droits de l'homme.
On prend en ligne tout de suite Michel Henry. Vous êtes là, Michel Henry?
Oui, bonjour.
Bonjour, journaliste à Libération. Ce qu'on vient d'entendre, ça nous ramène donc au verdict de culpabilité du 11 octobre 2007. Et vous, en septembre 2008, vous sortez un livre intitulé Agnolet, l'homme que l'on n'aimait pas, aux éditions Odile Jacob. Pour vous, cet homme est victime, au-delà des faits qui lui sont reprochés, de la mauvaise réputation?
Ben, il est victime surtout du fait qu'il a embrouillé pas mal de gens, qu'il ment beaucoup, qu'il sait des choses qu'il ne dit pas, parce que apparemment quand même, quand elle disparaît, il n'est pas surpris. D'ailleurs, il fait strictement rien pour essayer de la rechercher, et il a l'air de savoir ce qui s'est passé, mais il ne le dit pas. Donc tout ça induit effectivement des présomptions qui font qu'à la fin on fait des conclusions en disant si c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a tué.
Et pardonnez-moi, là je vous arrête sur ce point, Michel Henry. Vous pensez que s'il savait ce qui s'était passé, il ne l'aurait pas dit depuis toutes ces années, ne serait-ce que pour se libérer du poids d'une accusation terrible?
C'est pour ça que l'accusation en conclut qu'il est coupable, parce qu'elle dit s'il essaie quelque chose et que si c'est pas lui qui est impliqué dans sa disparition, il le dirait. Et s'il le dit pas, c'est que c'est lui qui en est coupable.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, c'est la question que je vous pose à vous, comment on peut expliquer qu'il ne le dise pas s'il sait?
Bah pour pas se... Si c'est lui, il va pas dire que c'est lui.
Si c'est lui, d'accord, mais si ça n'est pas lui, vous dites...
Si ça n'est pas lui, ça c'est un des nombreux mystères de l'affaire. C'est un homme assez mystérieux, Maurice Agnolet. Donc vous savez, si vous lui parlez, vous lui posez une question, il répond toujours à côté. C'est très difficile de savoir exactement ce qu'il pense et ce qu'il a fait. Mais il est clair que dans le dossier, il n'y a aucune preuve, il n'y a strictement rien de tangible pour le condamner. Et on se demande là, à partir de lundi, comment les jurés à Rennes vont faire, sachant que la procédure devant une cour d'assises, c'est une procédure qui doit être orale. Donc on fait défiler des témoins. Mmh. Et quel témoin on va retrouver 37 ans après à la barre, avec quel souvenir? Il y a une impossibilité technique de juger à partir d'un certain laps de temps qui va être qui était déjà flagrante dans les précédents procès, mais qui va l'être encore beaucoup plus là.
Donc, en fait, vous rejoignez, en quelque sorte, dans ce livre, vous précédez la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que ce procès où il a été condamné était un procès inéquitable. On peut dire, le doute ne lui a pas été, comment dire, il n'a pas bénéficié du doute légitime, ce qui est une autre question que de savoir s'il a tué ou pas.
Absolument, c'est-à-dire que tous les éléments peuvent être retournés dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que chaque élément qui est considéré comme flagrant par l'accusation peut être expliqué par la défense. Donc on se retrouve sur un dossier où tout est extrêmement subjectif, et selon la vision subjective que vous avez de M. Agnolet, ben vous allez décider qu'il est coupable ou qu'il est innocent. Mais ça suffit pas, c'est pas ça la justice. La justice, c'est que l'accusation doit prouver que M. Agnolet est coupable, et s'il ne l'est pas, ouais, il doit être acquitté. C'est simple, et c'est ça qu'on doit appliquer comme principe dans tous les cas. D'autre part, l'autre problème, c'est celui que je décrivais précédemment, c'est le temps qui a passé depuis les faits. C'est absolument impossible de juger quelqu'un aussi longtemps après les faits.
Et pourtant, ce procès va avoir lieu.
Et pourtant, il va avoir lieu, évidemment, mais c'est aussi parce que la justice, n'ayant pas fait son travail au début de l'affaire, elle se sent une espèce de dette compréhensible vis-à-vis de la famille Leroux, qui elle est persuadée que Maurice Agnolet est coupable. Et donc, après lui avoir fait bénéficier de certaines largesses, ou disons, après au début de l'enquête, d'avoir été quand même assez gentille avec Maurice Agnolet, elle s'essaye de se rattraper aujourd'hui en faisant pencher la balance de l'autre côté, mais on ne rattrape pas ses erreurs de cette manière-là.
Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné votre point de vue, puisque vous allez suivre, j'imagine, évidemment, de très près ce procès qui s'ouvre lundi.
Absolument.
Oui. Et vous craignez qu'il soit à nouveau victime de l'homme, pour reprendre le titre de votre livre, l'homme qu'on n'aimait pas.
Ben, c'est toujours possible, parce que s'il a un peu à faire, c'est une loterie judiciaire, là. Vous avez bien vu qu'en première instance, il est acquitté. En appel, il est condamné. Quand une cour qui prend un peu de recul et qui ne juge, elle, que sur le dossier, là, c'est-à-dire la Commission européenne des droits de l'homme, regarde le dossier, elle conclut qu'il ne devait pas être condamné, ou en tout cas qu'il devait être rejugé. Donc, c'est une loterie judiciaire à laquelle il est confronté.
Merci Michel Henry. On va faire tout de suite une pause, et ensuite on va entendre Jean-Charles Leroux, donc qui sera partie civile lundi à Rennes au procès de Jean-Maurice Agnolet.
L'heure du crime sur RTL.
La lecture de la famille Leroux sur les éléments à charge ou à décharge pour Jean-Maurice Agnolet sont évidemment très différents de ceux de son défenseur. La famille Leroux, je le disais tout à l'heure, a toujours été intimement persuadée de la culpabilité de Jean-Maurice Agnolet. C'était le cas, et c'est toujours le cas, même si maintenant c'est une personne très âgée, de René Leroux, qui a 91 ans cette année. Ils seront représentés, Jean-Charles Leroux sera avec ses deux sœurs sur les bancs de la partie civile lundi prochain. Ce matin, il a confié au micro de Margot Agnès pour l'heure du crime comment il allait aborder ce troisième procès qui sera certainement le dernier.
Nous abordons ce procès avec beaucoup de combativité, bien sûr, parce que nous sommes totalement convaincus, malheureusement, de la culpabilité de Maurice Agnolet. Donc nous allons essayer de faire partager notre conviction à l'ensemble des jurés.
Et quelle sera votre stratégie pour démontrer cette culpabilité ?
C'est surtout l'accusation qui doit démontrer sa culpabilité. Nous sommes là que pour affirmer notre intime conviction. Et d'ailleurs, si nous avions le moindre doute sur la culpabilité de Maurice Agnolet, nous ne nous présenterions pas à ce procès. Nous allons nous déplacer avec mes deux sœurs. Pour nous, c'est vraiment la preuve que notre conviction est totale. Il y a deux questions qu'on peut se poser sur ce procès. La première, c'est à qui profite le crime ? Et tout le dossier, les 16 tomes du dossier, indiquent que seul Maurice Agnolet a compris qu'Agnès avait disparu, a su que cette disparition était définitive et a profité de cette disparition. Donc ça, c'est quand même un élément essentiel. Je sais que la défense de Maurice Agnolet s'étonne qu'on soit passé d'un acquittement en 2006 à une condamnation en 2007. Il y a aussi une autre question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'il ait été acquitté ? Si on inverse le problème, les choses sont tout à fait différentes. Comment se fait-il qu'il ait été acquitté ? C'est la raison pour laquelle le parquet a fait appel et qu'il y a eu un procès un an après. Alors c'est vrai qu'entre les deux procès, il ne s'est rien passé. Mais en tout cas, la plupart des observateurs et des chroniqueurs judiciaires étaient extrêmement surpris qu'Agnolet ait pu être acquitté à Nice.
Et il faut quand même souligner que à Nice, il y a eu des incidents au sein de la magistrature et on a dit de manière extrêmement forte qu'un des assesseurs du tribunal de Nice avait réglé ses comptes en arrivant à obtenir l'acquittement d'Agnolet. Donc l'acquittement de Maurice Agnolet en 2006 était quand même relativement suspect et en tout cas le parquet a fait appel pour une bonne raison, c'est qu'il a considéré que cet acquittement n'était pas normal.
Selon vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de la condamnation au terme du deuxième procès ?
Bah écoutez, il n'y a pas eu ce problème de magistrat qui réglait ses comptes avec sa hiérarchie. Les débats ont été extrêmement sereins. La défense de Maurice Agnolet n'a d'ailleurs fait aucun incident. Le seul qui a fait finalement un incident, c'était l'accusation. L'avocat général n'était pas très content dans la manière dont les débats se passaient. Il avait l'impression qu'on lui laissait pas la place pour poser ses questions. Donc voilà, je pense que c'est la sérénité des débats qui a permis de rentrer dans le fond du dossier, parce que c'est ça l'essentiel. Et je sais qu'à Rennes, la défense de Maurice Agnolet va multiplier les incidents pour éviter justement de rentrer dans le fond du dossier. Mais quand on rentre dans le dossier, je pense que malheureusement, il est assez difficile d'avoir des doutes sur la culpabilité de Maurice Agnolet.
Et quelles sont les preuves ou les charges qui peuvent être retenues contre lui, selon vous ?
Écoutez, le principal problème de ce dossier, c'est l'absence de corps d'Agnès, qui est évidemment un problème extrêmement douloureux pour sa famille, mais aussi un problème pour la justice. Donc, est-ce que, lorsqu'il y a une absence de corps, on doit considérer qu'il y a une absence de meurtre ? Est-ce que le crime parfait, c'est de faire disparaître le cadavre ? C'est finalement à cette question que la cour d'assises de Rennes doit répondre.
Et il y a eu donc au cours de toutes ces années différents rebondissements. Il y a par exemple une personne qui a dit qu'elle connaissait le véritable meurtrier, que ce n'était pas Jean-Maurice Agnolet. Comment vous, du côté de la famille d'Agnès, vous avez perçu ça ?
Écoutez, depuis le début de cette affaire, il y a toujours eu des informations, beaucoup de fausses pistes lancées. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de fausses pistes qui ont été lancées et qui étaient intéressantes pour Maurice Agnolet, parce que toute piste indiquant qu'Agnès pouvait être à droite, à gauche, en voyage, etc., ça lui permettait de dire mais attention, elle est peut-être en vie, donc comment me condamner ? Encore une fois, il n'y a pas de cadavre. Il y a eu des pistes alternatives dont certaines ont certainement été lancées par Maurice Agnolet. Donc pour nous, c'est évidemment très difficile d'entendre tout ça. À chaque fois, on sursaute. À chaque fois, on a quand même de l'espoir. Pas l'espoir de retrouver Agnès. On a l'espoir de retrouver son corps, de savoir ce qui lui est arrivé. Parce que c'est vrai que faire son deuil dans ces conditions, c'est assez difficile.
Si le procès se termine par une reconnaissance de la culpabilité de Jean-Maurice Agnolet, est-ce que le deuil sera plus facile pour vous ?
Le vrai deuil, c'est de retrouver le corps d'Agnès. On n'est pas dans une vengeance personnelle contre Maurice Agnolet. Ce n'est pas la condamnation de Maurice Agnolet qui va panser nos plaies. Nous sommes animés par un désir de justice. Et puis le deuil, c'est autre chose. On a toujours, je crois, conservé une certaine dignité. Et puis vous savez, c'est difficile, je trouve, enfin pour moi, c'est difficile de dire que quelqu'un est un assassin. En plus, quand c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est très difficile de se faire à cette idée, et c'est une accusation très grave. Je suis conscient, et mes sœurs sont également conscientes, de la gravité de nos propos, mais nous les maintenons. Nous sommes convaincus que Maurice Agnolet a assassiné Agnès et a fait disparaître son corps. Je voudrais quand même qu'on sache que Maurice Agnolet a fait en sorte de toujours échapper à la justice. Et il y a réussi d'ailleurs avec un certain talent. Il a notamment essayé d'avoir la nationalité canadienne, ce qui ne permet pas l'extradition, ça n'a pas marché. Il a essayé d'avoir la nationalité panaméenne également, ça n'a pas marché. Il a obtenu un troisième procès en hurlant que tout ça, il avait été jugé et condamné dans des conditions intolérables. Maintenant que le troisième procès est annoncé, il fait tout son possible pour qu'il n'ait pas lieu. Donc, c'est quand même très étonnant de la part d'un homme qui se prétend innocent de refuser justement de rendre des comptes à la justice.
Quand vous dites qu'il fait tout pour que le procès n'ait pas lieu, vous pensez à quoi ?
Je pense aux multiples requêtes dont Maître Saint-Pierre pourra sans doute parler à votre micro, qu'il a fait pour démontrer qu'on ne pouvait pas juger Maurice Agnolet. Parce qu'il n'y a pas de corps, donc on ne peut pas le juger. Et je suis persuadé, il l'annonce d'ailleurs, que le début du procès va voir un certain nombre d'incidents de procédure qu'il va créer pour expliquer à tout le monde que ce procès ne peut pas avoir lieu. Donc ça, si ce n'est pas fuir la justice, je ne sais pas comment ça s'appelle.
C'était Jean-Charles Leroux au micro RTL d'Agnès Margot pour l'heure du crime. Une pause et on va retrouver Maître François Saint-Pierre à qui je vais évidemment poser la question qu'évoquait à l'instant Jean-Charles Leroux. Ce procès est-il, selon lui, illégal ?
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et c'est la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer maintenant avec Maître François Saint-Pierre, qui est donc le défenseur de Maurice Agnellet. On va parler de l'aspect exceptionnel de ce qui va se passer à partir de lundi. C'est un procès qui va être très suivi. On l'a dit au début de l'émission, quasiment inédit. Après un acquittement suivi en appel d'une condamnation, un recours en cassation que vous aviez fait qui a été rejeté à l'époque, vous tournez vers la Cour européenne des droits de l'homme et elle prend une décision. Sa décision, Maître François Saint-Pierre, c'est pas de dire il faut un troisième procès.
La Cour européenne des droits de l'homme, elle juge si oui ou non il y a eu violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est tout ce qu'elle fait. Et en l'occurrence...
Elle dit quoi alors? Elle dit le procès était inéquitable.
Le 10 janvier 2013, elle a rendu un arrêt à l'unanimité de ses membres pour dire que le procès qui avait conduit à la condamnation de Maurice Agnellet avait été inéquitable. Et pourquoi est-ce qu'elle dit ça? C'est parce qu'elle dit que ce verdict n'a pas été motivé. On ne peut donc pas comprendre pourquoi il a été condamné, d'autant moins que l'acte d'accusation sur la base duquel s'est ouvert le procès n'a émis qu'une hypothèse, c'est Agnellet le coupable, mais n'a justifié cette hypothèse par aucune preuve. On ne sait toujours pas où, quand, comment
d'accord.
Ce crime
là,
a eu lieu.
On parle de preuves matérielles incontestables.
Ça veut dire qu'on ne peut pas instruire un procès criminel à un homme sur la base d'une seule hypothèse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, demain à Rennes, comme hier à Aix, on n'a pas plus de preuves. Et l'acte d'accusation est toujours le même.
C'est-à-dire le dossier n'a pas changé. L'enquête, elle est arrêtée depuis longtemps, quoi.
Moi, j'ai demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Votre acte d'accusation, zéro pointé par la Cour européenne des droits de l'homme. Refaites-le. Il m'a été répondu, c'est impossible de le refaire. Très bien. Donc, à Rennes, je ne fuis pas la justice. Je demande, j'exige un procès équitable pour un citoyen qui est accusé devant une cour d'assises. C'est la moindre des choses.
Vous allez plus loin que ça, Maître, puisque, enfin, d'après ce que j'ai lu, en tout cas dans la presse, donc c'est souvent la vérité quand même dans la presse, vous allez demander l'annulation du procès en disant il ne peut pas se tenir, il est illégal.
C'est vrai que le procès va s'ouvrir par un débat sur notre justice criminelle. Et je vais demander à la Cour d'assises de dire que la convocation qui a été adressée à Maurice Agnellet d'avoir à comparaître devant la Cour d'assises, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable parce qu'on ne lui dit pas où, quand, comment le crime a eu lieu, ce qui est la base de tout procès. Et sans ces précisions, il n'y a pas de procès.
Il y a eu beaucoup de procès quand même. Enfin, beaucoup de procès. Maurice Agnellet n'est pas le seul qui a été condamné ou acquitté dans un procès où manquait la victime. Et le crime sans cadavre, ça existe.
C'est bien pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme a sifflé la fin de partie. Ça suffit. C'était des verdicts divinatoires. On n'a aucune preuve. Ce type a une sale gueule. On le condamne. C'est terminé.
Oui,
il
mais
faut
nous,
des preuves.
On a dans notre. Enfin, je ne suis pas juriste, donc je parle sous votre contrôle. Mais on a inventé entre guillemets l'intime conviction qui fait notre grande différence avec la justice anglo-saxonne.
L'affaire Agnellet.
On dit
aura
bien que
permis.
Le jury doit en son âme et conscience, selon son intime conviction, déclarer si Monsieur Untel ou Madame Untel est coupable ou innocent.
Les choses ont changé. Grâce à l'affaire Agnellet, qui aura fait évoluer notre justice criminelle, car désormais, il faut motiver les preuves sur lesquelles une accusation, une condamnation est prononcée. Autrement dit, moi, je vais demander à la cour d'assises de me dire, est-on sûr qu'elle est morte? Sait-on les causes de son décès? À quelle date? Mais précisément, où précisément? Et selon quelle modalité? Que s'est-il passé? Vous n'en savez rien? Vous avez le devoir
de vous déclarer incompétent en ce moment-là, vous dites.
Le devoir d'acquitter.
Oui. D'acquitter.
Hein? C'est-à-dire que l'intime conviction, il faut que cela reprenne un sens. Ça n'est plus la permission d'acquitter ou de condamner quelqu'un comme ça, de façon divinatoire, purement subjective. Il faut prouver.
Et vous pensez que vous pouvez être entendu?
Oui. J'en suis convaincu pour la bonne raison, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme m'a donné raison. Je suis ensuite retourné devant la Cour de cassation pour lui demander un troisième procès et la libération de Maurice Agnellet. Elle m'a donné raison 3 semaines après la condamnation par la CEDH de la France. Et ce procès va donc se tenir dans ces conditions qui sont totalement renouvelées. Hier, à Aix, nous étions dans un autre système, hein, un peu arriéré et décadent. Disons les choses très clairement.
En 2007.
Aujourd'hui, nous sommes dans face à un système judiciaire qui a été rationalisé, modernisé, et notamment grâce à Maurice Agnolet, malgré lui. Hein.
Alors, Maurice Agnolet, il a 76 ans. Comment vous le voyez, j'imagine, beaucoup en ce moment, puisque on arrive là, quand même à ce qui pourrait être pour lui vraiment le procès de la dernière chance. Comment, dans quel état d'esprit est-il ?
Bon, c'est un homme qui a 76 ans, il est âgé, mais surtout, il a très très mal vécu les 5 ans de prison qu'il a dû effectuer à la suite de ce verdict inique d'Aix-en-Provence, jusqu'à ce que la Cour de cassation le libère en janvier 2013. Et il ne s'est pas rétabli depuis. Et donc, c'est un homme fatigué, mais déterminé et confiant. Je ne sais pas si c'est dans la justice ou dans son avocat, mais ça revient au même.
Je vous remercie beaucoup, Maître François Saint-Pierre. Merci aussi à Michel Henry, notre confrère de Libération, qui est intervenu tout à l'heure, et à Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès Leroux, qui, avec ses deux sœurs, sera sur les bancs de la partie civile à partir de lundi. Voilà, quand on vous parlera de ce procès dont on va certainement beaucoup parler, vous aurez eu... je l'espère en tout cas, l'occasion de vous faire cet après-midi, sinon une intime conviction, tout au moins de comprendre les difficultés que pose ce procès particulier. L'émission est terminée, dans quelques instants, Flavie Flamand. RTL.